Il avait vécu très simplement toute sa vie, sans le moindre excès. Un jour, à l'âge encore relativement jeune, de 73 ans, il est décédé dans un accident, laissant une veuve, quatre fils adultes et plusieurs petits-enfants. Et les quatre fils se sont préparés, dans un pays où la couverture sociale n'est pas ce qu'elle est en France, se sont préparés à assurer l'avenir matériel de leur mère, jusqu'à ce qu'ils découvrent, au moment où toutes les formalités ont eu lieu, que leur père avait passé sa vie à préparer l'éventualité d'un départ brutal, d'un départ précoce. Tout était prêt, contrat de prévoyance, assurance, décès, retraite complémentaire jusque-là inconnue, et l'avenir de sa veuve sur le plan matériel était pleinement assuré. Cette histoire m'a touché, c'est celle de mon grand-père paternel. Il avait soigneusement préparé son départ en veillant à ce que les siens ne manquent de rien. Dans un tout autre contexte, voilà quel était le souci de l'apôtre Pierre. En écrivant cette seconde lettre qu'on considère généralement comme son testament. Il sait que son départ est proche, il sait que les temps seront durs, il veut s'assurer que les chrétiens de la deuxième génération et au-delà, jusqu'à nous, que les chrétiens auxquels il s'adresse auront tout ce dont ils ont besoin pour tenir et grandir dans leur foi. Je vous invite à lire donc dans la deuxième lettre de Pierre, dans la Bible bleue, c'est à la page 1388, 2 Pierre donc, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 21. 2 Pierre 1, verset 12 à 21, dans les Bibles bleues, page 1388. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, aussi longtemps que je suis dans cette tente. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Jusqu'ici la lecture de la parole. Dans l'extrait sur lequel nous nous penchons aujourd'hui, l'apôtre Pierre veut attirer l'attention de ses lecteurs sur l'essentiel qu'il veut leur transmettre alors que son départ est proche. Il précise qu'il va continuer tant qu'il est là à leur adresser des rappels de vive voix, mais il veut aussi leur laisser des rappels pour la suite. L'essentiel dont ils auront besoin pour tenir et grandir dans leur foi et le faire dans un contexte souvent sombre et difficile. Alors je vous invite à voir trois aspects de ce message ce matin, trois aspects de ce texte que Pierre nous transmet, un message authentique, un message central, et enfin et pour conclure, un message d'espérance. Un message authentique d'abord. Alors voici ce qu'on peut lire sur un t-shirt qui est disponible à la vente sur Internet. Le christianisme, la croyance selon laquelle un zombie juif cosmique de l'âge de bronze peut te faire vivre pour toujours si tu manges symboliquement sa chair, et que par une forme de télépathie, tu lui demandes de devenir ton maître, afin qu'il puisse ôter de ton âme une force mauvaise qui est présente dans l'humanité depuis qu'une femme faite de la côte d'un homme a été convaincue par un serpent parlant qu'elle devait manger le fruit d'un arbre magique. Parfaitement logique, non ? Caricature grossière, évidemment, de ce que croient vraiment les chrétiens. Et on peut caricaturer tout ce qu'on veut dans la vie si on utilise bien ces mots. Mais le fait est que depuis 20 siècles, ceux qui croient en Jésus-Christ sont régulièrement accusés d'être des gens naïfs qui prennent au sérieux des légendes, qui se racontent des histoires pour se rassurer ou que sais-je. Et dans cette lettre, Pierre, et c'est un comble, lui qui a été compagnon de route de Jésus-Christ, témoin direct de Christ, comme il va le dire, l'apôtre Pierre, donc l'un des disciples les plus proches de Christ, doit déjà répondre à de telles accusations. Et il le fait dans ce texte. Alors ici, son souci n'est pas tant de défendre sa crédibilité face à ses adversaires, ses détracteurs. Pierre écrit ici à des chrétiens et il n'est plus à sa près. Il a été déjà bien des fois persécuté pour sa foi. Son but ici donc n'est pas de défendre sa propre crédibilité, mais plutôt de préparer les chrétiens de la génération d'après à proclamer Jésus-Christ avec confiance et assurance dans un contexte difficile, voire dramatique. Lui, témoin oculaire de Jésus, veut que ses frères et sœurs sachent que ce ne sont pas des légendes que lui et les autres apôtres leur ont transmis. Ce ne sont pas des légendes, mais bien la réalité dont ils ont été témoins. C'est ce qu'il dit au verset 16, qu'il écrit au verset 16. « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. » De nos propres yeux. L'un des compagnons, des collègues, si on veut, de Pierre, l'apôtre Jean, s'exprime en des termes très semblables au début de sa première lettre. Lui aussi insiste sur le fait que lui et les autres apôtres ont été témoins oculaires de Jésus-Christ quand il écrit, 1 Jean 1:1, « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » Alors on ne le dira jamais assez. Face à de telles déclarations qu'on trouve, notamment dans le Nouveau Testament, mais plus largement dans la Bible, il y a un choix à faire. Le christianisme ne s'est pas transmis sur la base de révélations mystiques qui auraient été adressées à un prophète en privé et qui nous inviterait à croire, tout simplement. Il s'est transmis sur la base de dizaines, même de centaines, de témoignages de personnes qui affirment avoir été témoins oculaires de Jésus. Des hommes et des femmes qui ont affirmé, et pour certains de manière argumentée et documentée, que Jésus avait fait des miracles incomparables, mais plus encore, qu'il avait apporté un enseignement radicalement nouveau, et qu'au troisième jour, après son exécution publique, il était ressuscité, là encore, devant témoins, et qu'il les avait envoyés proclamer le message d'une vie nouvelle aux quatre coins du monde. Alors bien sûr, on peut douter, et beaucoup le font, de ces témoignages. Mais alors il faut admettre une grande conspiration dont on a du mal à comprendre quel serait l'intérêt, d'autant plus qu'une grande partie de la première génération chrétienne, de ces témoins, ceux et celles qui ont affirmé avoir vu le Christ ressuscité notamment, une grande partie de cette génération a été prête à mourir plutôt que de renoncer à cette proclamation. Alors lorsque nous lisons la Bible, et notamment le Nouveau Testament, lorsque nous découvrons ou redécouvrons ces récits de la vie de Jésus, si précis, si circonstanciés, ces lettres où Pierre, Paul, Jean et les autres ouvrent leur cœur, s'adressent à leurs frères et sœurs dans la foi, avec passion, avec zèle, avec une conviction qu'on ne peut pas manquer quand on lit ces textes. Quand nous nous confrontons à cela, rappelons-nous qu'il n'y a pas 36 explications possibles, ou bien ils fabulent tous conjointement, ils délirent tous ensemble, ou bien ce sont des menteurs cyniques et manipulateurs, mais qui du coup auraient conclu une sorte de pacte jusqu'à la mort pour faire croire à leurs mensonges au prix de l'emprisonnement, de la torture, etc. Ou bien, leurs témoignages sont fiables. On peine à trouver d'autres alternatives. Pierre, lui, veut donner une pleine assurance à ses lecteurs. Son témoignage à propos de Jésus n'est pas une série de légendes tirées par les cheveux, mais bien le récit de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a vécu. Or, il est frappant de constater, lorsque nous lisons la Bible, que les auteurs bibliques ne nous invitent jamais à croire sans réfléchir dans leurs esprits, dans leurs écrits, et c'est particulièrement frappant dans le Nouveau Testament, dans leurs écrits, ils expliquent, ils raisonnent, ils approfondissent, ils s'adressent à notre intelligence. Alors pourquoi ne pas nous confronter à la Bible, que nous soyons encore en chemin vers la foi ou simples curieux de la foi chrétienne, ou bien que nous soyons, pour beaucoup d'entre nous, déjà chrétiens, pourquoi ne pas nous confronter ou nous reconfronter à la Bible et notamment à tout ce qui nous est dit sur Jésus ? La foi, ce n'est pas éviter les questions difficiles, mais c'est au contraire faire face à toutes ces questions, sans faux semblant, dans la confiance. Et avoir confiance dans la Bible, précisément, ce n'est pas refuser d'entendre toute critique ou remise en question à son égard qu'on peut entendre dans le monde, ou même parfois dans les églises. Ce n'est pas refuser de se poser des questions difficiles, là encore, mais c'est au contraire faire le pari que plus nous nous plongeons dans la Bible, plus nous verrons qu'elle dit vrai et que son message est essentiel pour tous les hommes. Nous pouvons donc, en quelque sorte, si j'ose dire, dire chiche à ces témoins de Jésus-Christ qui nous disent que ce qu'ils nous écrivent, c'est du vécu. N'ayons pas peur de nous confronter à leurs récits. Venons-en justement au contenu de ce message, un message central. Le fait est que nous oublions la plupart des événements de notre vie quotidienne. C'est dit un peu brutalement, mais on oublie beaucoup de choses que nous vivons tous les jours. Et la preuve, c'est que si vous réfléchissez à ce que vous faisiez le 24 juillet 2015, il y a exactement un an, vous aurez sans doute du mal à restituer exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Peut-être pas à certains, c'était peut-être votre anniversaire ou que sais-je, mais vous avez vécu quelque chose d'incroyable. Mais pour beaucoup, si on vous dit comme ça n'importe quelle date l'an dernier, ça va être compliqué, il va falloir aller ouvrir son agenda électronique ou autre pour retrouver ce qu'on a fait ce jour-là. Mais bien sûr, pour nous tous, certains événements restent quand même gravés dans nos mémoires. Des grands événements de nos vies, ou parfois ça peut être aussi des anecdotes étonnantes, mais souvent des grands jours qui sortent de l'ordinaire, un concours réussi ou raté, une remise de diplôme, un mariage, une naissance, parfois plus tristement un décès, ou un événement difficile, un accident. Au verset 17 et 18, Pierre évoque un souvenir qui reste gravé dans sa mémoire. Je relis ces deux versets, 17 et 18. « Oui, il, Jésus donc, a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. » Cet épisode si particulier, qu'on appelle traditionnellement la transfiguration, nous est relaté dans trois des quatre évangiles, les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Et je lis ici la version de Marc, au chapitre 9, versets 2 à 7, des extraits de ces versets. « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Il s'entretenait avec Jésus. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors, ce n'est pas anodin que Pierre raconte cet épisode, puisqu'il était l'un des trois disciples qui ont eu le privilège d'y assister, avec Jacques et Jean. Maintenant, la question se pose tout de même. Pourquoi est-ce que Pierre choisit de raconter cet épisode-là ici ? Il est en train de chercher à rappeler à ses lecteurs l'authenticité, on l'a vu, de son témoignage. Et on pourrait imaginer qu'il choisisse de raconter un épisode qui s'est vécu plus publiquement, un miracle un peu plus spectaculaire aux yeux de nombreuses personnes, comme la, la multiplication des pains, par exemple, ou plus encore, le miracle par excellence, la résurrection de Jésus. Alors pourquoi est-ce qu'il choisit de parler de cet événement, la transfiguration ? Il me semble que pour bien répondre à cette question, il faut revenir à ce qui s'est passé ce jour-là, à la vision elle-même. Qu'est-ce que Pierre a compris ce jour-là, lorsqu'il a reçu cette vision ? Et pourquoi est-ce qu'il en parle dans ce contexte ? Il me semble qu'il y a deux éléments dans cette vision que Pierre veut particulièrement faire ressortir. L'un des deux saute aux yeux, si j'ose dire. L'autre est un peu plus subtil. Alors d'abord, celui qui saute aux yeux. Ce jour-là, Dieu a révélé à Pierre, Jacques et Jean la divinité et l'autorité de son fils Jésus. Et c'est ce que Pierre dit au verset 17. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Dieu confirme aux disciples de Jésus que Jésus est celui qui leur a envoyé, celui qui révèle parfaitement les projets, la volonté et même la personne de Dieu lui-même. Donc une première raison pour laquelle Pierre évoque la transfiguration, c'est que cette vision, elle est centrée sur Jésus-Christ, dans son autorité, dans sa puissance, sa divinité. Jésus y est révélé comme fils de Dieu, comme Seigneur et comme Sauveur. Or, qu'est-ce que Pierre veut convaincre ses lecteurs ? De quoi est-ce qu'il veut les convaincre ? Eh bien que la puissante venue de Jésus, verset 16, n'est pas une fiction, mais une réalité essentielle pour eux. Et pour Pierre, ce dont les chrétiens ont besoin avant tout, c'est d'être pleinement convaincu de l'autorité de Jésus sur le monde et sur leur vie. Et c'est vrai pour nous aussi. Ce dont nous avons besoin d'être convaincus avant tout, c'est de l'autorité de Jésus-Christ sur le monde et sur nos vies. Maintenant, venons-en à la raison plus subtile pour laquelle, il me semble, Pierre choisit d'évoquer la transfiguration. Je dis subtil parce que ce n'est pas explicite dans le texte, mais il me semble que c'est implicite et que la suite du texte révèle l'importance de cet élément. Alors je reviens un instant à la vision elle-même, telle qu'elle nous a été décrite dans l'évangile de Marc. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Marc 9, verset 4. Alors qu'est-ce que Moïse et Élie viennent faire là, si j'ose dire, plutôt qu'est-ce qu'ils représentent dans cette vision ? Pour un juif comme Pierre, ça ne fait aucun doute. Moïse représente la loi que Dieu a transmise au peuple d'Israël. Élie représente les prophètes que Dieu a envoyés à ce même peuple. Moïse et Élie, donc, c'est la loi et les prophètes. Or, la loi et les prophètes, à l'époque de Jésus, c'était la manière la plus courante de désigner les écritures hébraïques, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. Alors comment comprendre le sens de cette vision ? Dieu révèle la gloire et l'autorité de son Fils devant de nouveaux témoins, Pierre, Jacques et Jean, les apôtres, ceux qui vont être appelés à proclamer Christ partout dans le monde. Mais il le fait en présence des anciens témoins, la loi et les prophètes. Autrement dit, finalement, tout l'Ancien Testament. Dieu donc ne se contente pas de révéler à Pierre, Jacques et Jean la gloire et l'autorité de son Fils, mais il leur montre que tout l'Ancien Testament témoigne lui aussi de Jésus-Christ. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour Pierre de communiquer cela ici ? Eh bien pour comprendre cela, revenons au verset 15, où il écrit ceci à ses lecteurs. « Je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Pierre ne sera bientôt plus là en tant que témoin direct de Jésus. Mais il invite ses lecteurs et tous les chrétiens, et il nous invite, nous aussi, rue de Sèvres, Paris, 21e siècle, à faire confiance à son témoignage et à celui des autres apôtres, mais aussi au témoignage de tout l'Ancien Testament, comme il l'écrit au verset 19. Nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes, autrement dit, l'Ancien Testament. Nous disposons du témoignage donc de la loi et des prophètes, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et nous disposons du témoignage des apôtres, ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et ensemble, ces écritures convergent pour révéler Jésus-Christ dans sa puissance et son autorité. Jésus est au centre de la Bible, de la révélation biblique. Et plus encore, et c'est ce que la transfiguration met en évidence, le message central de la Bible, c'est de révéler Jésus-Christ. Le tableau le plus célèbre du monde est exposé pas loin d'ici, au musée du Louvre. Il s'agit bien sûr de la Joconde ou Mona Lisa. Et comme tous les grands tableaux, alors je suis loin d'être un spécialiste de l'histoire de l'art, mais comme tous les grands tableaux, la Joconde est remarquable pour la quantité des détails qu'on peut y déceler. Et on pourrait passer des heures à examiner un petit coin du tableau, et un spécialiste pourrait en parler pendant des heures, toutes les nuances de couleurs, de perspectives, tous ces petits détails parfaitement soignés qui font les grands artistes. Maintenant, si on devait regarder tous ces détails sans jamais voir l'ensemble du tableau et le portrait qui s'en dégage, on passerait à côté de l'essentiel. On pourrait parler peut-être très savamment de telle technique utilisée par Léonard de Vinci, mais on passerait à côté de l'essentiel. C'est en quelque sorte la même chose pour la Bible. On peut passer, si on veut, des jours et même des années à l'étudier en long et en large, à apprendre toutes sortes de choses intéressantes et importantes et qui peuvent nous encourager, nous fortifier et nous inspirer. Mais si nous passons à côté du message central de la Bible, nous passons à côté de l'essentiel. Et c'est ce que Pierre met en évidence ici. La Bible, ce n'est pas simplement, comme il arrive qu'on puisse le dire avec de bonnes intentions, la Bible n'est pas un mode d'emploi de la vie. Ce n'est pas un simple ensemble d'écrits religieux. Non, c'est avant tout la révélation que Dieu nous a donnée par laquelle il nous révèle son Fils, notre Sauveur. Et toute la Bible est au service de la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ce que Pierre rappelle à la fin du passage au verset 20 et 21, quand il souligne qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La traduction et le sens exact de cette phrase sont un peu débattus par les spécialistes, mais l'interprétation la plus probable et celle qui convient le mieux au contexte, c'est que Pierre affirme ici que les témoignages et récits individuels que la Bible contient ne se suffisent pas à eux-mêmes. Aussi précieux et riches qu'ils soient, ils prennent tout leur sens dans le cadre du message central que Dieu lui-même nous révèle. Peut-être que ce rappel est l'occasion pour nous de nous interroger sur la manière dont nous lisons la Bible. Oui, la Bible recèle de multiples richesses que nous n'épuiserons jamais, et nous sommes invités à nous plonger dans ces richesses jour après jour. La Bible est pleine de leçons humaines et spirituelles précieuses. Mais si nous la lisons en premier lieu comme, encore une fois, une sorte de mode d'emploi de la vie, ou comme un ensemble de pépites spirituelles, nous risquons de passer à côté de son message essentiel et central, celui de nous révéler qui est Jésus, pourquoi nous avons besoin de lui, ce que ça veut dire de croire en lui et de lui donner notre vie. Alors comment faire pour lire la Bible sans perdre de vue cette vision d'ensemble? Il y a des livres, de bons livres qui peuvent nous aider dans ce sens. J'en cite un parmi d'autres qui est disponible en français, qui s'appelle « Le Royaume révélé ». Et vous pouvez sûrement le commander auprès de Daniel Masson ou sur Internet directement. « Le Royaume révélé » de Goldsworthy. Il y en a d'autres qui sont très bien également. Mais un conseil en tout cas, et de ne pas lire la Bible par petits fragments et dans tous les sens, selon l'humeur du jour. Moi, j'ai, pendant un certain temps, quand j'étais quand même nettement plus jeune, j'ai lu la Bible un peu comme ça. Tiens, aujourd'hui, on va ouvrir un peu n'importe où et voir ce que le Seigneur veut me révéler. Il peut arriver, bien sûr, Dieu est libre, il fait ce qu'il veut. Et bien sûr, il arrive, et des témoignages le confirment, que parfois il va nous amener, par hasard, entre guillemets, mais ce n'est pas un vrai hasard, à lire tel texte de l'Écriture. Donc je ne conteste pas du tout cela. Mais il me semble que ce n'est pas la manière habituelle de lire l'Écriture. Mieux vaut avoir une démarche réfléchie, qui nous aidera aussi d'ailleurs à être plus réguliers. Un plan de lecture quotidienne suivi, il y en a plusieurs qui existent, qu'on peut trouver facilement sur Internet. Un plan de lecture de préférence qui alterne entre l'Ancien et le Nouveau Testament, par exemple. et je suis à votre disposition pour tout conseil à ce sujet. Mais revenons-en à notre texte et nous allons conclure. Je récapitule d'abord un message authentique auquel les chrétiens peuvent faire confiance, un message central autour de la personne de Jésus-Christ. J'en arrive au troisième point qui sera notre conclusion, un message d'espérance. Alors on a dit plutôt que les chrétiens sont souvent accusés d'être un peu fâchés avec le réel, de s'être construit une sorte de monde parallèle fictif. Mais pour Pierre, comme pour les autres auteurs du Nouveau Testament, il n'y a rien de plus vrai que Jésus-Christ, sa personne et son message. Il ne s'agit pas de construction religieuse ou intellectuelle plus ou moins sophistiquée, mais au contraire de l'irruption de la réalité de Dieu dans notre humanité. Et si Pierre invite ses lecteurs à placer leur foi en Christ, ce n'est pas pour échapper à la réalité, mais au contraire pour s'attacher à ce qu'il y a de plus vrai, pour s'attacher à la réalité, pour voir au-delà d'un monde fuyant et passager, le Dieu éternel qui nous appelle à le connaître. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean n'ont pas seulement eu un aperçu de l'autorité de Jésus, ils ont aussi eu un aperçu du monde à venir. Un monde dans lequel Jésus sera universellement reconnu comme Seigneur. Un monde dans lequel tous pourront le voir tel qu'il est, investi de gloire et d'autorité. Les premiers lecteurs de Pierre n'ont pas eu le privilège de cette vision que Pierre a eue. Et nous non plus, nous ne l'avons pas eue. Mais nous dit Pierre, nous pouvons nous aussi connaître Jésus tel qu'il est en nous plongeant dans la parole qui le révèle. Et dans un monde dominé par la souffrance, par l'incertitude, le soupçon, que ce soit à l'échelle mondiale ou dans nos propres vies, nous pouvons nous accrocher à cette parole, verset 19, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Pierre avait un petit côté poète, mais au-delà de la jolie formule, ce qu'il nous dit est essentiel. L'Écriture est ce qui nous permet de voir clair dans un monde de ténèbres et de nous préparer au monde à venir. Et c'est pourquoi nous en avons besoin constamment. Plus que jamais aujourd'hui, nous sommes exposés à une foule d'informations en tout genre, en temps réel, sans cesse, des alertes, des tweets, des messages dans tous les sens, télé 24 heures sur 24. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans, bien sûr, il y a aussi du bon. Mais plus que jamais, nous sommes exposés à une foule d'informations, de prises de parole, d'opinions en tout genre. Or, nous ne tiendrons pas, notre foi ne tiendra pas, nos enfants ne croiront pas si nous nous privons de cette parole qui nous ouvre les yeux sur ce qui compte vraiment. Amen.